leur chant. Orchant, bonjour à toutes et à tous. Orchant un peu exceptionnel aujourd'hui, qui a été enregistré à New Delhi il y a quelques semaines, avec le prince de New Delhi, Manish Arora, créateur de mode. Où êtes-vous né, Manish Arora?
I was born in Mumbai, Bombay.
Je suis né à Mumbai, à Bombay.
And then I came to,
ensuite, bon, je suis venu à Delhi pour étudier la mode et j'y suis resté.
Et pourquoi avez-vous décidé de devenir créateur de mode à un moment où c'était pas la mode, justement?
Well, I was studying business before,
j'étudiais les affaires, le commerce, et ça m'intéressait absolument pas, je détestais ça, donc j'ai décidé d'en rester là, et j'ai voulu faire une école de la mode, c'était en 81, il n'y avait qu'une école de la mode à l'époque, je me suis inscrit, j'ai été pris, donc j'y suis entré un petit peu par hasard dans ce métier, mais une fois que j'y étais, j'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais faire.
Et vos parents ont accepté que vous fassiez de la mode, est-ce que c'était un métier assez correct pour eux?
Well, I'm the only child.
Je suis fils unique. Je n'ai pas de frères et sœurs, ce qui est très rare d'ailleurs en Inde, en tout cas à ma génération. Donc ça a été difficile. C'était pas le problème que je fasse une école de la mode. C'était plutôt de les quitter, d'aller vivre dans une autre ville. Ça ne leur plaisait pas. Je pouvais faire ce que je voulais comme métier. Ça ne les dérangeait pas, mais il fallait que je reste avec eux. Et une fois que j'ai commencé à avoir de bons résultats à l'école, alors bon, à ce moment-là, c'est mieux passé. Ils ont accepté.
Qu'avez-vous appris dans votre école de mode?
Very important I learned was discipline.
Ce que j'ai appris le plus important, c'était peut-être la discipline.
Of course, we all learn the technical things.
Alors bien sûr, on apprend les techniques, la coupe, le patronage, etc. Donc ça, j'ai appris ça. Mais vous savez, j'avais 17 ans, je quittais la maison et je faisais le grand saut. J'étais tout seul. J'ai appris à grandir tout seul, à vivre ma vie. Tout en apprenant les choses techniques, bien sûr, de la mode. Je suis devenu plus indépendant, plus sûr de moi, et ça m'a aidé. C'était le plus important.
Est-ce que dans votre famille, vous aviez une grand-mère, une mère, une tante qui était couturière, qui s'intéressait au tissu? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la mode féminine quand vous étiez petit?
There is no history of anybody.
Alors, absolument pas. Personne n'avait fait de couture dans la famille. Je suis le premier. J'ai une famille, vous savez, je viens d'une famille très simple. Ce sont des gens assez classiques. Ils viennent du Punjab. Ils sont venus à Bombay. Famille très conservatrice. Personne n'aurait imaginé qu'on aurait pu avoir un couturier dans la famille. J'ai été le premier. Je serais sans doute le dernier.
Quelles ont été vos premières créations?
Pour ma collection, vous voulez dire?
And that time it was not normal.
À ce moment-là, ce n'était pas tout à fait habituel. J'étais inspiré par Kennali Bazaar. C'était pas du tout tendance à l'époque. On trouvait que c'était plutôt trash, kitsch. Mais moi, j'adorais. Donc ma première collection, elle a été basée sur tous ces objets que j'avais pu, ces choses que j'avais pu acheter dans ce marché. Donc c'était une prise de position assez précise et décidée de ma part. J'étais attirée à l'époque par des choses que personne ne remarquait en Inde, mais qui moi me plaisaient. Par exemple, vous savez, vous avez une pancarte qui dit « Interdit d'uriner sur la voie publique ». Hein, eh bien, moi, avec cette signalisation, je m'en suis inspirée pour faire des vêtements. J'avais imprimé ce texte-là sur mes premiers modèles. Vous savez, par exemple, en Inde, quand on est amis et qu'on est des hommes, on se tient la main, on se tient bras dessus, bras dessous, on se touche entre hommes. Et c'est très bizarre, d'ailleurs, pour les étrangers de voir ça. Mais ça se fait ici. Alors, j'ai fait cette image où on voyait ces deux hommes, bras dessus, bras dessous, qui marchaient ensemble côte à côte. Voilà, ça, c'est le genre de choses que j'ai faites au début.
Très vite, vous avez été repéré en Angleterre, puis en France, puisque maintenant vous êtes reconnu comme un créateur de mode international. Est-ce que la mode en Inde représente une discipline artistique à part entière?
Well, I didn't become popular so easily first.
Ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, la renommée. J'ai travaillé très dur, d'autant que je viens d'Inde. J'étais le premier designer indien, le premier couturier indien. Et il fallait que j'apprenne les règles, apprendre comment les choses marchaient. Mais vous savez, la mode, c'est un secteur économique énorme. C'est une grosse industrie dans notre pays. Mais ce qui me rend triste, c'est que parfois, ce n'est pas reconnu comme un art en tant que tel. C'est un peu décevant. J'aimerais vraiment que la mode soit prise un petit peu plus au sérieux ici. Bon, c'est vrai que le pays progresse, il y a beaucoup de jeunes, il y a davantage d'argent, ces jeunes achètent des vêtements. Mais, si vous voulez, le regard sur la mode reste encore quelque chose à développer.
Qu'est-ce que ça veut dire être un homme ?
What is to be a man in India?
Être un homme
it's
en Inde,
obviously a better option.
Il vaut mieux être un homme, je crois. Malheureusement, c'est comme ça. Il est préférable d'être un homme.
I don't like that, but it's
non
like
pas que ça me plaise, mais c'est comme ça.
We still are
dans ce pays, l'Inde, les hommes sont encore supérieurs à la femme. N'en déplaise à certains, like c'est comme ça. Surtout dans les petites villes, et même à Delhi, en fait. J'espère que ça va changer, mais en tout cas, je ne sais pas si je vivrai assez vieux pour voir ce changement des mentalités.
Qu'est-ce que ça veut dire être une femme ?
Moi, je suis à moitié femme, donc pour cette moitié, je peux vous dire que ça va, ça se passe bien. L'Inde est stratifiée en classes, en niveaux, très stratifiée.
It's about where you come from and where you belong.
Tout dépend d'où on vient. Vous savez, il y a des jeunes femmes. La femme, parfois, est plus forte que l'homme. On est un des rares pays qui a été gouverné par une femme il y a des années. Donc, c'est surprenant de voir que c'est le genre de choses qu'on peut accepter, mais qu'en même temps, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Donc, moi-même, j'ai du mal à répondre à cette question. Le statut de la femme en Inde n'est pas parfait. Tout ce que j'espère, c'est que ça s'améliorera.
Est-ce que le corps de la femme indienne a le droit d'être dévoilé ?
Moi, je crée des vêtements pour les femmes, pour le corps des femmes. Je dirais que les femmes indiennes ont des corps magnifiques en général. La femme indienne est très belle. Pas simplement la femme qui va devenir la star internationale, etc. Toutes les femmes dans la rue, elles sont peut-être même encore plus belles parce qu'elles sont naturelles. Et parfois, j'ai envie de m'adresser à elles, leur dire, mais portez mes vêtements, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas si elles vont comprendre ma démarche, donc je n'ose pas toujours. Et je trouve que l'industrie de la mode devrait s'intéresser davantage aux femmes de tous les jours, aux femmes de la vie ordinaire.
Quand on voit vos vêtements et qu'on voit vos collections, Manish Arora, on s'aperçoit que vous faites une mode ultra moderne, mais en même temps très, très inspirée par la tradition indienne, et notamment par la superposition des tissus, par le détournement des saris. Quelles sont vos influences et comment composez-vous l'architecture d'un vêtement ?
Didier Grimbach, l'ancien président de la Chambre syndicale de la couture, disait que ce que je fais, ce n'est pas ethnique, mais que ça n'aurait pu être fait que par un Indien. C'est quelque chose de la couture à la fois moderne, mais traditionnelle à la fois. C'est les deux à la fois. Et c'est ce qu'il a dit, je pense qu'il a raison. J'aime bien emporter mon pays avec moi quand je pars et quand je vais quelque part. Sinon, je serais quelqu'un comme les autres. Or, ce que je fais, c'est que ce que j'emporte avec moi doit être facilement compréhensible par le reste du monde. Donc, je prends le savoir-faire indien, mais je le replace, si vous voulez, dans un contexte ou une vision qui soit compréhensible de tous. Je ne veux pas faire de la couture ethnique, mais en même temps, si je n'emportais pas avec moi ma tradition, je serais perdu. Et franchement, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce pays, c'est l'artisanat, c'est le savoir-faire inégalé, même par les Chinois. Et vraiment, il faudrait être complètement fou pour ne pas utiliser cette richesse-là.
Vous avez un atelier où vous créez vous-même vos propres tissus. Comment les inventez-vous? D'où viennent-ils? Et quelle est l'importance des matériaux à l'intérieur de votre création?
Well, it's very important.
Mais c'est très important, bien sûr, le tissu. Et il est vrai que nous fabriquons tout nous-mêmes. Tout est fabriqué en Inde, ou presque. Bien sûr, on fait par exemple les imprimés aux Pays-Bas, de la broderie au Japon, mais le gros du travail et des tissus sont produits en Inde. L'Inde est l'un des rares pays où l'on voit les femmes porter des couleurs chatoyantes, rouge, orange, jaune, vert, ensemble et être élégantes. Et ces femmes le font tout à fait naturellement. Il n'y a pas de calcul recherché en particulier. Et ça, c'est vraiment unique. Ça se passe ici, je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, ici, on peut mettre 20 couleurs. Moi, je peux faire une pièce où je vais mettre 20 couleurs chatoyantes différentes et ça sera beau. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je peux travailler que comme ça.
Comment voyez-vous l'avenir de la femme indienne? On est très frappé de voir, pas dans la rue, mais dans les espaces plus privés, un modèle de femme très occidentalisée. Pourquoi? Dans les publicités aussi, d'ailleurs.
Women in advertisement is a global phenomenon. It's not just India.
De toute façon, ça, c'est pas simplement en Inde, ce phénomène par rapport à la publicité. Je sais pas quoi vous dire. Elles sont utilisées comme un produit, les femmes. Et parfois, on n'aurait même pas besoin qu'elles soient là, mais on met leur visage de femme quand même, parce que ça attire le client. Mais ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de la femme, la place de l'homme et ce qui se passe. Je
ne
peux pas vous dire si on est en train de progresser ou de régresser. Je ne suis pas encore décidée. Je cherche à comprendre moi-même.
Les vêtements que vous faites, Manish Arora, sont à la fois très sexy et en même temps... pas du tout ostentatoire, il ne dévoile rien du corps de la femme, il joue sur une sorte de séduction presque millénaire d'une image de la féminité. Pourriez-vous décrire la manière dont vous inventez un vêtement? Tout est dans la matière, les tissus, la beauté des tissus, les couleurs, mais aussi la femme que vous inventez, il faut qu'elle marche, il faut qu'elle soit en mouvement. Pourquoi?
Je ne pense pas qu'une femme doive retirer ses vêtements et se dénuder pour être sexy. Regardez le sari en Inde. Les femmes habillées en sari ne sont pas dénudées et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont sexy? Et ce n'est pas un sexy sexuel ou vulgaire. Elles sont attirantes. Et c'est un vêtement très simple qui recouvre... effectivement le corps de la femme et pourtant elle est très désirable, la femme qui porte le sari, et c'est ce que je fais moi avec mes vêtements. J'ai pas envie que les femmes soient délibérément sexy en montrant tout. Être sexy, attirante, ça vient, c'est quelque chose qui se dégage de soi, qui vient de l'intérieur.
On peut dire que vous avez réinventé le sari. Qu'est-ce que le sari pour vous et comment peut-il se métamorphoser?
Le sari, C'est magnifique. C'est une des plus belles pièces d'étoffe qui est faite d'un seul tenant. Donc, et parfois, il a été décliné de manière très kitsch. Il y a des gens qui l'ont réutilisé, revisité de manière un petit peu exagéré, pas toujours de bon goût. Je pense que ce qu'il y avait à faire a été fait. Après, on peut chercher des idées, des imprimés un peu différents. Mais si vous voulez, le drapé, le sari, il est une chose bien particulière. C'est comme le kimono. Un kimono, c'est un kimono. Il ne faut pas trop y toucher. Il faut garder le kimono dans sa version originale, sans vouloir absolument tout adapter et tout revisiter.
Donc vous ne faites pas partie de ces créateurs qui intègrent l'idée que la femme indienne, pour participer pleinement à la modernité, elle doit s'occidentaliser, bien au contraire.
Je ne pense pas de toute façon qu'elles vont s'occidentaliser aussi vite que cela. Ici en Inde, les femmes, vous savez, elles fantasment beaucoup sur leur mariage depuis leur plus jeune âge. Elles veulent avoir un mariage absolument grandiose. Ici, par exemple, vous savez, il y a souvent des réceptions, des festivals divers et variés. Il y en a très, très, très souvent. Et là, sur ce genre de réception, on n'est pas du tout prêt à porter le costume occidental. Imaginez s'il y a un mariage dans la famille demain, tout le monde sera habillé à l'indienne. Ça ne peut pas se passer autrement. Je n'imagine pas une jeune femme se rendant à un mariage ici en Inde, étant habillée autrement que de manière traditionnelle. Donc il y a vraiment cette partie de la culture qui est enracinée profondément au fond de nous, et nous n'allons pas nous occidentaliser aussi facilement que cela. L'Inde, c'est comme ça. Si vous voulez nous convaincre, il faut s'adapter à notre culture. Même McDonald's, quand ils sont arrivés, ils ont dû adapter le McDonald's et l'hamburger aux habitudes indiennes et à notre cuisine. Sinon, ils n'auraient pas réussi à passer. Donc, nous ne sommes pas prêts à renoncer à notre culture.
Nous allons écouter la voix de Paco Rabanne.
Un couturier n'est qu'un reflet de l'époque dans laquelle il s'exprime. S'il est vraiment créateur. Sinon, malheureusement, il y a des couturiers qui se prétendent créateurs et qui ne font que des copies du passé, des références à 30, à 25, parce qu'ils n'ont pas l'imagination assez forte pour interpréter le présent. C'est pas facile d'être contemporain. Les gens ont les yeux derrière la tête et pas devant la tête. Et il vaut mieux travailler dans le secret, dans le privé, parce que sinon on a toujours tendance à copier. Un créateur est un appareil photo. Il enregistre tout ce qu'il voit. Et donc il y a toujours tendance ensuite à retrouver l'idée de l'autre et croire que c'est la sienne.
Alors Manish Arora, vous avez travaillé avec Paco Rabanne. Et puis, ça a duré 2 ans, cette entreprise. Grand créateur, qui est mort il y a très peu de temps, qui a beaucoup révolutionné l'histoire de la mode française, et qui était au départ architecte. Il a introduit des concepts dans la mode qui étaient tout à fait révolutionnaires. Que pensez-vous de Paco Rabanne et comment s'est passée cette expérience en France ?
So, when I was offered this job,
lorsqu'on m'a proposé ce poste, Paco Rabanne n'était plus impliqué dans la marque. Bref, lorsqu'on m'a proposé le poste, je n'étais pas certain d'accepter, mais ils m'ont dit « venez voir les archives ». Et là, j'ai vu les archives extraordinaires. Je me suis dit, là, c'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. C'est comme ça que je me suis décidé. Magnifique expérience. Vous imaginez un Indien comme moi être en mesure de travailler pour une marque française pour la première fois. Je me souviens, j'étais rue François 1er, c'était mon premier jour au bureau. Je regardais par la fenêtre, je voyais Givenchy, Dior, Balmain. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de... Je suis dans le monde réel, là, c'est en train de se passer. Et c'était incroyable. Et j'ai rencontré M. Rabanne une fois, et il n'était déjà plus dans l'entreprise. Et je dirais que ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose qui fera date, qu'on n'oubliera pas, qui fera référence dans le métier de la mode. Et je suis heureux d'avoir fait partie de cet héritage, même si ce fut pour une assez brève durée.
Nous allons écouter la voix d'Yves Saint-Laurent lors de sa dernière conférence de presse, au moment où il annonce qu'il va quitter le monde de la mode.
J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé. C'est aussi à ces fantômes esthétiques que je dis adieu. Je les connais depuis mon enfance et c'est pour les retrouver que j'ai choisi ce merveilleux métier. J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit.
Alors on vient d'entendre Yves Saint-Laurent qui a été un de nos plus grands créateurs en France. Il a été obligé de dire adieu au monde de la mode parce que le monde de la mode avait beaucoup évolué et que le monde de la mode, en tout cas pour la création, haute couture comme on dit en France, eh bien c'était réservé à une toute petite élite qui devenait de plus en plus réduite. Est-ce que c'est le cas en Inde ?
Well, yeah. In many ways,
oui.
Like I said,
à bien des égards, c'est vrai. La mode indienne, en fait, elle est régie par les mariages. Donc, c'est pas vraiment la mode, c'est plutôt les vêtements de cérémonie et de mariage. Et donc, lorsque l'élite, évidemment, lorsqu'elle dépense de l'argent, elle veut avoir son mot à dire et y mettre son grain de sel. Mais oui, c'est effectivement toujours, si vous voulez, quelque chose qui est dirigé par l'élite, la mode. Dans d'autres parties de l'Asie, c'est davantage les masses qui vont dicter la loi maintenant, mais en Inde, ça reste un phénomène d'élite.
Ne pensez-vous pas qu'il y a une espèce de mondialisation des canons de la beauté ? Et si oui, comment les percevez-vous, Manish Arora ?
Well, I would say we are still a little bit more conventional about the idea of beauty.
Je pense que nous restons un petit peu plus conventionnels que cela par rapport aux canons de la beauté. Lorsque je fais des défilés à Paris, moi je choisis des filles qui sont très belles, certes, mais si je dois faire un défilé ici, je choisirais d'autres types de modèles parce que les canons de la beauté ne sont pas les mêmes ici. Ici en Inde, on est plus attaché à la perfection, ça a quelque chose de plus conventionnel peut-être, la beauté qu'on recherche. Alors qu'à Paris, vous voyez les défilés, on va trouver une beauté sous ses formes les plus surprenantes et inattendues. Et ça marche, c'est ce que veulent les gens. Donc il y a, non, les canons de la beauté me semblent assez différents entre l'Inde et ailleurs.
Comment voyez-vous l'avenir de votre métier ? Est-ce que vous allez continuer à vivre dans votre propre pays en Inde et ne pas céder aux sirènes de l'Occident qui vous appellent depuis maintenant pas mal de temps ?
No, I will never leave my country.
Je ne quitterai jamais mon pays. Il a ses qualités, il a ses défauts, mais je l'aime.
Like I do now, I have two lives, I have two brands.
J'ai deux marques, hein. La marque en Inde, ici, donc en Inde et une autre à Paris. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé un équilibre. Je vis un peu entre ces deux villes. Paris tout le temps, ça serait trop. C'est une ville qui fatigue. Je ne peux pas y être tout le temps. Donc, si je peux continuer à vivre comme ça, à cheval sur deux villes, c'est parfait.
Quelle est votre définition du bonheur ?
Oh, it's very simple. Happiness is the easiest thing to get.
Le bonheur, c'est ce qu'il y a de plus simple à obtenir. Enfin bon, c'est difficile à expliquer quand même. C'est très simple, être heureux, c'est très simple.
I think if you look in India,
en Inde, regardez, il n'y a pas besoin d'être riche pour être heureux. Vous voyez, dans la rue, des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont même pas un toit pour dormir et qui sourient quand même et qui sont manifestement joyeux. Ça montre bien qu'on n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit pour être heureux. C'est un esprit. C'est dans votre tête. On peut être heureux là où on veut.
Alors, on n'a pas parlé de Bollywood, mais c'est aussi un des motifs d'inspiration de la création.
Moi, j'aime bien le côté visuel du Bollywood, là où ils en font trop, l'exagération.
But the whole packaging
bon, le contenu, après, ça laisse un peu à désirer. Mais si vous voulez, tout le packaging, toute la mise en scène, la joie, j'aime beaucoup.
All the movies had the same story.
Dans les années 80-90, c'était toujours le même récit. Alors maintenant, ça a un peu évolué, les scénarios sont améliorés, mais c'était ailleurs, différents, des acteurs différents, des costumes différents, mais l'histoire, c'était toujours la même. Toujours la même. Mais pourtant, c'était tellement beau à voir, moi j'adorais. Et vous savez, on pouvait dépenser des millions de roupies pour juste un titre qui était chanté pendant le film et on n'hésitait pas à dépenser. Moi j'aimais ça.
On n'a pas parlé de sexe depuis le début de l'émission. Est-ce qu'une femme peut dire à un homme qu'elle a envie de faire l'amour ?
So I'm just telling you, we come from a country where
vous savez, en Inde, par exemple, l'amour entre deux hommes n'est pas acceptable, n'est pas autorisé. C'est une chose tellement naturelle, pourtant, la vie sexuelle et le sexe. On a eu le Kama Sutra ici, quand même. Et puis là, tout à coup, on a l'impression d'être retourné à une époque antérieure. On régresse. Alors, il y a des femmes qui vont vous dire « moi, j'ai envie de faire l'amour », mais de manière générale et globalement, enfin, c'est quand même un mot dont on ne parle pas, hein, qu'on ne prononce pas.
Si une femme
vient vous voir et vous demande de faire l'amour, bon, ça passe mal.
Hein.
Ceci étant, je connais moi des jeunes femmes qui seront ravies de répondre par l'affirmative à une aimable proposition.
Manish Arora, on va se quitter en écoutant une star de la musique, mais indienne, laquelle choisissez-vous ?
Bah, vous allez trouver ça ringard. Hein.
Kalhonaho,
c'est donc un titre de Bollywood. C'est vrament Bollywood typique. New York Masala. Et ça raconte exactement ce que je viens de vous décrire.
Ben, merci beaucoup, Manish Arora. Merci à notre traductrice Hélène Joguet, merci à Elodie Royer, Corinne Amar, Samuel Bernard et Anne Kobilac, ainsi qu'à Stéphane Touvenin et Pascal Bénard. Vous écoutez France Culture, bon après-midi.
तेरे गाल गुलाबी